6h03, donc vendredi 23 août. Encore une fois, une belle journée qui s'annonce. On a 15 degrés ce matin, ciel généralement dégagé. Et c'est du soleil qui est prévu toute la journée et pour les prochains jours. Donc, si vous êtes en vacances, si vous pouvez en profiter, que vous êtes dans la grande région métropolitaine, vous êtes choyé pour ce qui est de la météo. Alors, je le disais, 24 pour aujourd'hui, 23 pour demain samedi, généralement ensoleillé. Dimanche, 27 degrés ensoleillé. Et même lundi, on prévoit du soleil 28. Ça va se couvrir un peu plus vers le milieu de la semaine prochaine. On parlait de travaux tantôt, puis on va y revenir avec Marc, mais c'est sûr qu'encore une fois, c'est un week-end casse-tête. Et des ponts qui sont partiellement fermés, des chantiers qui font en sorte que des accès sont bloqués, puis on ajoute à travers tout ça une vente trottoir. Sérieusement, là, je ne sais pas pourquoi on continue dans ce sens-là. Il me semble qu'on, ce qui est essentiel qu'on le fasse, mais ce qui est secondaire, on devrait peut-être justement repousser ça. Mais non. Alors, c'est sûr que pour ce qui est de la rive sud de Montréal et le centre de Montréal, ça va donner lieu à des complications assez sérieuses durant la fin de semaine. Il y a des travaux qui sont de nuit, d'autres qui sont de jour. Alors, on va vous donner tous les détails dans quelques instants. Première nouvelle ce matin, évidemment, les incendies en Amazonie. Les feux de forêt ont augmenté de 84 % depuis le début de l'année au Brésil par rapport à la même période l'an dernier. Et quand on regarde les chiffres, par exemple, ce sont des milliers d'incendies qui se sont créés depuis le mois de janvier. Et on peut dire que le territoire qui est en cause, c'est 60 % de ce territoire qui se trouve au Brésil. Et c'est pour ça que le Brésil est fortement interpellé. L'avancée des feux, semble-t-il, est très difficile à évaluer, mais l'Institut national de la recherche spatiale, qui est en mesure de prendre des images, fait état de près de 2500 nouveaux départs de flammes en l'espace de 48 heures dans l'ensemble du Brésil. Et la principale cause serait bien sûr la déforestation. Certains de ces incendies auraient été allumés par des mains criminelles. Le président du Brésil, qui est un climato-sceptique, accuse des organisations internationales d'être responsables de ces gestes, voulant provoquer une crise. Mais le G7 qui s'ouvre en fin de semaine à Biarritz est évidemment touché par ce qui se passe, parce que c'est une zone, et on le répète, ça peut sembler être un cliché, mais c'est vrai, c'est un endroit qu'on présente tout le temps comme étant le poumon de la planète. En pleine crise climatique, et là je vais citer le secrétaire général des Nations Unies, qui dit « Nous ne pouvons accepter davantage de dégâts sur cette source majeure d'oxygène et de biodiversité. » Et le président du Brésil, lui, n'accepte pas les commentaires. Il a traité à Emmanuel Macron, président français, d'avoir une attitude de colonialiste, et en disant « Nous, on va s'occuper de nos affaires, on va faire ce qui est possible de faire. » Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, il y a des lois et des règlements assez stricts pour protéger l'environnement, pour protéger la forêt. Donc, ça existe. Le problème, c'est que c'est pas appliqué. Et que le président actuel, lui, est assez ouvert et assez complaisant avec l'industrie. Et puis, d'un autre côté, perso, dans ce cas-là, là, j'ai un irritant, moi, avec Leonardo DiCaprio depuis un bout de temps. Là. C'est-à-dire qu'encore hier, il nous envoie des espèces de messages de pape de l'environnement. Et ce gars-là voyage en jet privé, a un comportement qui est non seulement pas exemplaire, là, mais vient pas nous donner en plus des leçons. Là. Il y a quelque chose d'un petit peu pesant avec M. DiCaprio. Et à chaque fois, on le cite, puis dans tous les articles que je pouvais voir, autant en Europe qu'ici, là, on nous l'amène comme sur un piédestal. Alors, mais c'est quand même un enjeu important, tout ce qui se passe là-bas. Maintenant, deux dossiers importants. Le dossier de Bertrand Charest, qui obtient une légère réduction de peine. La cour d'appel qui a coupé 21 mois, pour toutes sortes de raisons qu'on va détailler tantôt, là, mais essentiellement parce qu'il y a de la confusion sur l'âge des victimes au moment des faits reprochés. Donc, au moment où il a agressé des athlètes, Également, il y a un problème de juridiction dans certains cas. Il y a des causes qui se dédoublent. Autrement dit, le juge de première instance, disons, l'a échappé une couple de fois. Et dans ce jugement, la Cour d'appel aussi s'interroge sur la façon dont la couronne DPCP a travaillé ça. Tu sais, tu as quelqu'un qui est victime d'agression sexuelle. Comment ça se fait que tu n'as pas situé précisément dans le temps? Elle avait quel âge quand c'était arrivé? Parce que ça fait la différence, plutôt que de déduire un certain nombre de choses. Et même le DPCP reconnaît qu'il y a certains éléments dans la décision du juge là, qui ne tiennent pas la route. Alors, la question, c'était bien plus de savoir, est-ce que Charest aurait un nouveau procès? Ou si la Cour d'appel était pour peut-être corriger le jugement, mais tout en maintenant l'essentiel, et c'est ce qu'on a décidé de faire. Maintenant, il y a le dossier de Bété, poursuite contre la Sûreté du Québec. Alors, vous avez vu les réactions hier, ça a été déposé, et c'est une poursuite qui va prendre du temps. J'imagine que l'objectif, dans le cas de M. Bété et de sa famille, c'est d'obtenir un règlement hors cour avec la Sûreté du Québec. Parce que c'est sûr qu'il va devoir répondre à des questions. Claude Poirier nous disait hier matin avec raison que M. Bété n'est pas le seul qui a été enquêté, pas le seul qui a été interrogé par les policiers. Il y a eu de mémoire une dizaine d'individus, disons, soupçonnés, et que dans son cas, l'étau s'est quand même resserré. Il y a toute l'histoire de la voiture, un alibi plutôt faible le soir de la disparition, et disons, un comportement sur les réseaux sociaux et sur le web, je fais attention à mes mots, là, mais disons, consommation particulière. On se comprend, là? Alors, donc, il va falloir qu'ils répondent aux questions. Tu sais, quand il dit, par exemple, je suis prêt à passer le test de polygraphe, détecteur de mensonges, mais si c'est négatif, je veux pas qu'on le publie. C'est parce que tu peux pas faire ça, là. Tu le fais ou tu le fais pas, là. C'est pas un élément de preuve, mais c'est sûr que ça peut être un élément pour les enquêteurs. Et je répète ce que j'ai dit hier, on pourra toujours bien pas blâmer la Sûreté du Québec d'avoir essayé. Et là, je comprends qu'ils se sont fait ramasser par un juge, mais ils n'ont pas fait le choix de ce citoyen au hasard sur la rue. Et malheureusement, ils n'ont pas été capables de faire la preuve. On n'a pas été capable d'épingler le responsable du meurtre de Cédrica Provencher. Donc, ça va être un long processus devant les tribunaux. Puis, tant qu'être dans le domaine des procès et tout ça, je lisais ce matin dans le Journal de Montréal que la Cour a maintenu le congédiement d'un enseignant de la Mauricie qui a entretenu une relation amoureuse avec son élève de 12 ans. Et ça se peut-tu? En lui envoyant des textos 24 heures par jour. Alors, le juge parle d'un manque de jugement, rupture du lien de confiance avec l'employeur, et donc l'arbitre dans le dossier dit que la société s'attend à un plus haut degré de conduite morale de la part de ses enseignants. Savez-vous quel âge qu'il y a, le prof? 45 ans. Ça s'est passé durant l'année scolaire 2015-2016. Puis là, il devient copain-copain avec une élève de sixième année. Et là, décèle chez elle un fort potentiel sportif. On lui offre, en fait, le prof lui offre des cours de golf où il se retrouvait souvent seul. On peut s'imaginer le genre de cours de golf qu'il devait donner sur la position des mains sur le bâton. L'enseignant et l'élève de 12 ans ont assisté à des parties de hockey, sont allés manger au restaurant, se textaient sans arrêt, etc., etc. Alors, le prof en question a décidé de prendre des mesures pour mettre fin à cette relation malsaine. Lui, à 45 ans, là, il trouvait que... s'il disait à un moment donné, il dit, coudonc, peut-être pas ben sain ce qui est en train de se passer. Allô? Alors, finalement, le congédiement est maintenu dans son cas. On va retrouver Marc Lespointchaud. Très bien. Papier très intéressant ce matin dans la presse de Katia Gagnon sur la DPJ. Je vais essayer de résumer ça le plus clair possible, là. C'est sûr que depuis quelques années, il y a une tendance à laisser les enfants dans leur milieu naturel, leur milieu avec leurs parents biologiques, dans la mesure du possible, quand les parents sont aptes. Puis peut-être parfois, on peut trouver que ça devient un peu trop obsessif et on n'a qu'à penser à l'histoire de la petite fille de Granby, tu dis ça n'a aucun sens. Alors, ça se fait qu'on la laisse avec son père compte tenu des antécédents. Alors, donc, cette espèce de volonté de maintenir un lien avec les parents, quand tu es obligé de sortir l'enfant, tu l'envoies où, cet enfant-là? La tendance, c'est d'abord de privilégier le milieu toujours biologique, donc les grands-parents. Alors, ce matin, on a les résultats d'une étude qui a été réalisée pendant 3 ans, 172 enfants de la région de Montréal. Et ce qu'on constate, c'est que dans près de la moitié des cas, ce sont les grands-parents qui recueillaient les enfants. Et là, ce sont des enfants qui, dans certains cas, n'avaient pas vraiment de problème, mais se trouvaient en présence d'un parent toxique, là, un parent qui avait soit des problèmes de consommation de drogue, de santé mentale. Dans des cas de 35 % des enfants, eux avaient, disons, un problème potentiel plus clair, en tout cas, des enfants qui étaient plus problématiques. Alors, près d'un enfant sur 5 présentait des problèmes d'attachement ainsi qu'un retard de développement. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que la mère avait été elle-même victime de maltraitance. Alors, la question qui est posée, est-ce qu'on envoie des enfants, pour les sortir de leur milieu toxique, vers des grands-parents qui, eux-mêmes, ont été des parents, à l'époque, qui maltraitaient leurs enfants, qui ont un historique de maltraitance d'enfants? C'est pas simple. C'est pas simple. Mais, et ça, là, Régine Laurent et sa commission, ils vont devoir réfléchir à ça. C'est difficile de trouver des familles d'accueil. Et contrairement à l'image qu'on peut avoir, c'est pas vrai que c'est un automatisme que, parce que l'enfant se retrouve chez ses grands-parents, ça va être la stabilité puis qu'il va pas faire la valse des familles d'accueil. L'étude montre que ce sont souvent même les grands-parents qui disent « Reprenez-le, je suis pas capable », puis que l'enfant va se retrouver après un certain temps, plutôt court, dans d'autres familles d'accueil. Et donc, tu sais, de vouloir garder à tout prix l'enfant avec ses parents biologiques, puis quand ça ne va pas avec les grands-parents biologiques qui sont peut-être eux-mêmes assez fuckés, là, ou qui l'ont été, puis qui, ça ne veut pas dire que c'est un milieu sain pour l'enfant. C'est une réflexion à faire là-dessus. Alors, dans la presse, vous retrouvez ça ce matin. Je reviens sur l'histoire des marchés publics. Ça commence à être sérieux, là. Et la presse nous parle de cas de vandalisme chez le président des marchés publics. Il s'est fait saccager 350 pommiers en pleine nuit. Il s'appelle Nicolas Villeneuve. C'est un producteur, lui, qui habite dans le secteur du lac des Deux-Montagnes. Et le 28 juillet, le toile d'un dôme d'entreposage de sa machinerie, c'était précisément Saint-Joseph-du-Lac, a été coupé. Des dommages de 40 000 $. Semaine plus tard, 350 petits pommiers qui ont été coupés. Puis après ça, des tuyaux d'irrigation qui ont été coupés. Puis en plus, récemment, intro par effraction dans sa maison. Lui, là, il a comme laissé tomber, puis on peut comprendre, là. Mais ça joue dur dans les marchés publics, là. Puis je reçois quelques courriels de gens qui me racontent une série d'histoires difficilement vérifiables. On connaît la trame de fond, là, c'est-à-dire des gens qui ont pris le contrôle des marchés publics, des producteurs gros bras, puis qui ont des espaces, puis qui peuvent sous-louer. Dans certains cas, on me parle même d'une vente qui était tout à fait illégale. Puis toi, tu l'as acheté de bonne foi, puis là, tu te fais sortir parce que c'est un fling-flang. Et là, on est en train de vouloir redresser ça, là. Alors, autant, et ça semble surtout concentré, disons, au marché Jean Talon. Seriez-vous étonné d'apprendre qu'on a des problèmes avec les trottinettes? On en a parlé un petit peu cette semaine dans Le Devoir ce matin. La Ville se dit insatisfaite du déroulement du déploiement, a d'ailleurs limité de moitié le nombre de véhicules en circulation. Elle a dit que c'est un projet pilote, mais si l'opérateur ne fait pas son travail, nous allons agir. Les trottinettes, évidemment, sont dans les rues depuis le 13 août, et on connaît les règlements, là. Ça ne peut pas rouler plus vite que 20 km/h. Ça te prend un casque, ça prend un permis. Il faut faire, évidemment, un usage, disons, régulier de la trottinette. Tu ne peux pas l'abandonner n'importe où. Et là, c'est concentré centre-ville, Ville-Marie, et dans Westmount également. Et plusieurs se disent que de toute façon, c'est pas applicable. Peut-être comme beaucoup de règlements là, avec les cyclistes, avec les piétons. Par contre, on le voit avec les vélos, puis je vais revenir tantôt, là, on a maintenant des appareils de mesure pour calculer la distance entre le vélo puis la voiture. Puis il y a des règles très strictes qui existent. Il faut que tu gardes une distance. Si tu es dans une zone de 50 et moins ou dans une zone de 50 et plus. Alors, mais c'est clair que ça va être un bordel. Tu auras beau vouloir mettre les règlements, c'est sûr qu'on va en retrouver partout. Puis il n'y a pas juste le fait que ça vient comme, disons, je dirais, salir l'environnement, là. Parce que des gens là, qui laissent ça n'importe comment. Mais je vous dirais aussi, c'est la relation avec les piétons. Tu sais, il y a des gens qui veulent louer une trottinette, mais ils ne veulent pas être dans la rue. Fait qu'ils vont sur le trottoir. Fait que toi, tu t'en viens avec ta poussette, ton enfant, tu t'en viens à pied, tu es une personne handicapée. Puis là, tu zigzagues à travers tout ça. C'est pas tellement reposant. Alors, dans le devoir, vous allez retrouver ça. On va revenir sur le chantier Turcot, là. Pratiquement 80 % du chantier qui est complété. C'est incroyable comme réalisation. Là. Quand tu dis que tu as à défaire une vieille structure, à construire la nouvelle, à gérer la circulation pendant cette période-là, c'est pour le moins impressionnant. Secteur scolaire, disons que les élus sont en campagne pour éviter de disparaître. Alors, c'est sûr que les élections scolaires, eux, y tiennent, là, ce qu'ils appellent la pseudo-démocratie scolaire. Le gouvernement caquiste veut remplacer ça par des administrations, des conseils d'administration, où il y aurait des profs, des parents, des citoyens également. Donc, faire disparaître la notion d'élection scolaire. Il n'y a personne qui participe à ça vraiment là, dans l'ensemble du Québec. Alors, on est dans une campagne là-dessus. Il paraît que du côté anglophone aussi, on est en train de jongler avec l'idée d'appliquer la loi sur la laïcité. La Commission scolaire de Montréal s'est fait, là. Après les réticences, puis on connaît la volonté de contester la loi devant les tribunaux, puis même, on parlait de désobéissance civile. Là, ils sont en train d'allumer, puis de se dire que c'est peut-être pas la chose à faire. Et je sais pas si vous avez vu à Radio-Canada hier, le premier probablement d'une longue série de reportages où on nous présente une enseignante sikh qui a quitté le Québec pour aller vivre en Colombie-Britannique à cause de son signe religieux. Et où on invite les profs qui seraient frustrés de ne pas pouvoir avoir un signe religieux quand ils enseignent, là, de venir en Colombie-Britannique. Vous avez le ministre de l'Éducation qui est prêt à accueillir tout le monde. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu au Québec pendant des années, qui a grandi dans sa communauté. Elle dit qu'elle est déçue d'avoir dû quitter. C'est-à-dire, il n'y a personne qui l'a forcé à quitter. Elle a pris la décision de partir parce qu'elle veut maintenir, elle veut garder son signe religieux. C'est sûr qu'on va en avoir plein de reportages comme ça. Et là, il faut voir, ce sont les contestations devant les tribunaux qui seront à suivre, qui seront quand même, je pense, assez intéressantes. Je rappelle que le vote des actionnaires se prend aujourd'hui, le dossier Air Canada, Air Transat. M. Péladeau était dans le format une page de pub depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, c'est le vote, donc c'est deux pages de pub où il réitère que la vente d'Air Transat à Air Canada n'est pas à l'avantage des consommateurs. Et il a parfaitement raison. Je comprends les actionnaires, puis je comprends que leur préoccupation, c'est pas de savoir si c'est bon pour le consommateur, mais c'est une concentration qui est forte. Et connaissant les pratiques d'affaires d'Air Canada, on peut à tout le moins s'interroger. Puis on pourrait aussi s'interroger sur les passes de rémunération des hauts dirigeants d'Air Canada, toujours dans la foulée de l'acquisition de Air Transat. Alors, de toute évidence, ça va passer, là. Après quoi, il reste les étapes, bureau de la concurrence, c'est bon. Mais sérieusement, là, je vois aucun intérêt pour les consommateurs au terme de cette transaction. Vous allez voir, les prix vont probablement augmenter, l'offre va être plus serrée. Puis t'as beau dire qu'il y a d'autres transporteurs aériens, là. Il y a un certain nombre de corridors, il y a un certain nombre de liaisons possibles. Alors, c'est clair que le nouveau Canada Transat va pas mal contrôler le marché. 6h22 minutes. Allons-y avec l'autoroute 15.